Radio Barque, 25e de la saison, troisième partie. Invité de ce jour, Viviane Durand, que nous avons présenté en tout début d'émission. Je rappelle quand même un petit peu plus précisément que professionnellement, Viviane Durand, vous avez fait une carrière d'institutrice à Pouzol-Minervois.
Oui, c'est ça.
Mais habitant essentiellement à Sainte-Vallière, dont vous êtes plus tard devenue maire. Alors, vous êtes femme, donc maire, c'est encore relativement rare, malgré la parité. On va revenir probablement sur ce côté-là. Vous avez été d'abord donc conseillère municipale et puis à partir de 2008, maire de cette commune de Sainte-Vallière. Donc ceci, ce qui signifie que vous êtes dans votre deuxième mandat. Vous avez été réélu en 2014 avec un score de 60%, si
oui.
Je ne me trompe. Et puis, vous vous étiez déjà intéressé précédemment à l'intercommunalité dans le cadre d'une communauté de communes. Avant de rentrer Sainte-Vallière, la commune de Sainte-Vallière, dans le Grand Narbonne, donc la communauté d'agglomération actuelle.
Voilà.
Ce qui vous avait mis un petit pied à l'intérieur. Et puis on vous a retrouvé en 2014, à la surprise de certains, peut-être la vôtre, je ne sais pas, vous allez nous dire, vice-présidente chargée des finances, c'est-à-dire un rôle quand même qui n'est pas secondaire dans une institution. Alors expliquez-nous comment les choses se sont passées.
Alors, les choses se sont passées tout à fait simplement. Le jour du vote des vice-présidents, le 15e président, vice-président devait être élu. Mon nom a été proposé. Moi, j'étais là en spectateur parce que, bon, petite commune, sans étiquette politique marquée. J'étais un spectateur. Mon nom a été donné, il a été retenu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée...
Ça n'est pas l'aboutissement d'un long processus de
votre
part.
Non, pas du tout.
Vous n'avez rien négocié,
rien
avant,
du tout.
Rien du tout.
Ça a été tout la surprise générale.
D'accord. Je crois, oui.
Oui, et alors justement, on sait que très souvent, politiquement, même si on va y revenir, la territorialité, c'est une chose, la politique politicienne, c'en est une autre. Mais vous n'êtes pas particulièrement à gauche et proche du PS, que je sache.
Non. Hein,
donc,
non, non.
C'est pas pour des raisons politiciennes qu'on a fait appel à vous.
Non. Alors, je pense que mon nom a été donné parce que quand je m'engage dans un travail, je le fais du mieux que je peux. Je ne dis pas que je le fais bien, mais je le fais du mieux que je peux.
Donc on vous a fait confiance sur ce volet-là.
Je pense, voilà. Et ensuite, quand je donne ma parole, quand je donne ma confiance, elle est totale, ou alors je rompe et c'est fini, voilà, je me retire. C'est ma façon de fonctionner. Je n'aime pas les compromis... qui sont bancales. J'aime aller droit.
Voilà. Donc bon, on a fait appel à, pense-t-on, à quelqu'un de carré, il faudra quelqu'un de carré sur cette responsabilité des finances. Alors une question que l'on pose très souvent, Viviane Durand, à vos confrères ou à vos collègues maires, aujourd'hui, donc vous êtes maire d'une petite commune, je crois que c'est 500 et quelques...
C'est 553.
553 habitants. Bon, aujourd'hui, en ce moment, il n'y en a plus que 552 puisque vous êtes à cette émission. Donc c'est une petite commune. Que reste-t-il dans le cadre d'une intercommunalité comme celle du Grand Narbonne, que reste-t-il à faire aux maires des communes, petites ou grandes d'ailleurs?
Alors en pratique, il reste l'état civil. Donc on enregistre les naissances qui se passent ailleurs, notamment à Narbonne ou Béziers, chez nous c'est comme ça. Les décès, on enterre au cimetière.
Oui, ça reste toujours communal.
Voilà. Ça c'est l'état civil et ensuite ben, l'urbanisme. Et l'urbanisme c'est une lourde tâche, même dans un petit village, puisque tout le monde attend beaucoup de l'urbanisme. Et on est contraint par justement l'intercommunalité. Parce que même si on a la compétence, le SCOT nous donne des limites. Donc, par exemple, le taux de progression de la population ne doit pas dépasser 1%. 1% de 550 habitants,
oui,
ça fait pas grand-chose.
Ça fait 5, quoi.
Voilà. Donc, dans les 20 années à venir, on a guère de progression dans ce domaine-là.
C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de faire des lotissements, des choses comme ça qui...
Si, on peut les faire, mais on ne pourra pas, voilà. On peut les faire d'un seul coup. Mais d'ici 20 ans, on n'aura pas l'autorisation. En plus, on nous a refait la station d'épuration et elle est faite pour un maximum de 800 habitants.
Oui. Donc, ça laisse de la marge quand même entre 553 et 800. Mais effectivement, vous êtes bridé notamment par ce document qui est le SCOT et qui fixe ce genre de choses.
Oui, ce que l'imam est très important parce que c'est vrai que peu de gens le savent. Hein, c'est que voilà, les compétences résiduelles des communes, notamment pour les petites, quoi, hein, sont pratiquement pas nulles, mais enfin très réduites. Hein, et elle fait bien de montrer que même dans le domaine de l'urbanisme, en fait, où souvent les maires qu'on a reçus disent mais là je suis maître du jeu, mais non. Ils sont contraints non seulement par le SCOT, mais aussi par toute une série de réglementations de l'État.
Autre,
qui,
oui.
Protection environnement, Natura 2000, enfin bon, toute une série de zones inondables, enfin que sais-je, qui font que, voilà, même dans ce domaine-là, les pouvoirs d'intervention réels, quoi, hein, sont relativement faibles.
Donc, on prête aux maires beaucoup de pouvoirs, et en fait, on n'en a pas
ça
beaucoup.
Ce n'est plus le cas, quoi. Non, l'intercommunalité a beaucoup dépouillé, donc, les maires de leurs pouvoirs.
Oui.
Alors, ça explique peut-être que, finalement, certains maires sont contents d'être vice-présidents de l'agglo, parce que là, ils ont du grain à moudre. Donc, c'est ce qui est votre cas aujourd'hui.
Il y a beaucoup de grain à moudre. je n'ai pas cherché à être vice-présidente. J'aime bien participer. J'allais à toutes les commissions, tous les groupes de travail. J'y allais facilement, puisque à la retraite, j'étais disponible. Mais je n'ai pas cherché à avoir un titre particulier. Quand on me l'a donné, je l'ai pris, parce que j'estime qu'on ne refuse pas ce genre de choses. Ou alors c'est qu'on se sent trop bête. Bon,
vous n'aviez pas l'intention de laisser croire.
Non. Et donc c'est un challenge. C'est aussi un défi pour moi qui n'avais jamais fait de finances particulièrement, moi, à part gérer le compte de
l'école. Oui, vous aviez géré la commune quand même, mais vous aviez géré Vaco.
Oui, mais bon, c'est facile.
C'est une petite commune.
C'est quand même autre chose. Hein,
oui, voilà. C'est autre chose, voilà.
Les chiffres, j'ai eu du mal à m'habituer aux chiffres.
Voilà, c'est ça. Là, il y a un changement d'échelle, en quelque sorte.
Voilà.
Oui. Alors, dites-nous, donc, aujourd'hui, responsable des finances, comment voyez-vous, justement, votre tâche, d'une part, et puis l'avenir de cette communauté d'agglomération?
Alors on me dit tout le temps, vous faites que parler de la construction de l'agglomération. Elle est toujours en construction, parce qu'on a défini les limites, elles sont en train de se finaliser, parce que bon, c'est pratiquement terminé, les limites sont faites. Mais l'intérieur, le fonctionnement est encore à construire, parce qu'on fonctionne encore entre communes associées. Ce n'est plus ça, c'est l'intercommunalité, c'est l'entité principale. Et on a du mal à réagir, tous les maires, à réagir dans ce sens-là. Chacun tire la couverture de son côté. On doit faire, dans le cadre de ma compétence, on doit faire le pacte fiscal financier de solidarité.
De
solidarité. Et c'est ce mot solidarité qu'il va falloir définir, parce que pacte fiscal financier, il est pratiquement fait, puisqu'on a des règles d'attribution, etc. Mais de solidarité, c'est là où le bas va blesser, et où il va falloir s'entendre sur ce terme-là.
Parce que ça entraîne un changement d'état d'esprit pour vous.
Oui, sur certains points, pas sur tout. Mais bon, il faudra s'entendre de savoir si la solidarité, elle va du bas vers le haut ou du haut vers le bas.
Alors, une remarque, Michel.
Oui, parce que c'est pacte fiscal de solidarité. Quand on a reçu ici même en fait, Jacques Bascou, je lui ai dit, je suis assistant, souviens, à l'antenne, hein, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait, pour éviter les effets en fait, de dysfonctionnement entre agglo en fait, et communes, il fallait un pacte fiscal de solidarité qui, par exemple, et notamment, évite que, à chaque transfert de compétences, de moyens, de personnel, etc., on constate dans les communes, non pas une diminution, mais une augmentation, effectivement, des mêmes dépenses, hein, en personnel notamment. Hein, premier point. Et que, deuxièmement, si, comme il n'y a pas de contraintes pour éviter les augmentations asymétriques des fiscalités des communes en fait, et de l'agglo, il fallait bien, pour éviter des transferts indirects, que, à partir du moment où l'ensemble de l'agglo disait, bon, par exemple, on n'augmente pas la fiscalité et les bases, les communes membres aient exactement la même politique. Parce que si, effectivement, je prends un exemple simple, hein, l'agglo décide de ne pas augmenter en fait, sa fiscalité, Non, plutôt l'inverse. La mairie de Narbonne décide, par exemple, de ne pas augmenter sa fiscalité, ni les bases de sa fiscalité. L'agglo pourrait très bien se dire, ben, je profite de l'aubaine pour moi l'augmenter du montant qu'elle n'a pas augmenté. Parce qu'au final, c'est toujours le même contribuable qui paie.
Oui, le contribuable, donc, ça
donc,
c'est certain,
pour éviter
c'est
ce,
le même.
Pour éviter ce genre de transfert indirect, il n'y a pas d'autre manière, politiquement, de mettre en place ce genre. Et je vous souhaite, madame,
oui.
Beaucoup.
Alors justement, Viviane Durand, vous qui êtes au pied du mur, au pied de ce mur, vous l'évoquez, ce pacte fiscal de solidarité. Expliquez-nous comment vous le voyez, comment vous pouvez y contribuer.
Nous avons commencé à travailler, puisque bon, le fonctionnement de l'agglo tel qu'il a été prévu en début de mandat commence à être au bout de son efficacité. On va revoir un petit peu cette façon de travailler. Moi, j'avais mis, comme ça ne m'allait pas, j'avais mis en place... Je vais demander au président qui m'a donné l'autorisation, parce que quand même, c'est lui qui donne ce genre d'autorisation, un comité de réflexion auquel j'avais convié une liste de personnes de tous bords et de toute grandeur de commune, de façon à ce qu'on puisse travailler sur les finances, parce que il me semblait qu'il fallait avoir un regard... plus vaste sur les décisions à prendre. Et on a commencé à l'évoquer. On n'avance pas vite. On est en train de faire un état des lieux et on se rend compte que quand même, de fait, on a mis en place certaines règles d'attribution de fonds de concours, d'attribution pour tout ce qui est donné de l'agglo vers les communes. Mais c'est pas écrit. Et il faudrait aller plus loin. Il faudrait élargir beaucoup plus et écrire, surtout écrire, notre façon de voir l'agglo, la solidarité dans l'agglo, et ensuite les règles qui vont régir un petit peu toutes les finances de l'agglomération. Parce qu'il y a des communes très riches, il y a des communes très pauvres. Il y en a qui moyennent. On investit sur certaines communes parce qu'elles sont stratégiquement les mieux placées, mais il faut qu'il y ait des retombées quand même sur les autres.
Sur les autres,
voilà.
Oui.
Donc tout ça, c'est à mettre en place, à faire entendre aux maires qui en bénéficient, ne pas non plus vouloir faire croire qu'on veut les dépouiller. C'est pas le terme, hein, et c'est pas non plus le but. C'est mieux répartir.
Et est-ce que vous avez l'impression, justement, d'être bien suivi par le président Jacques Bascou aujourd'hui ? Est-ce qu'il va dans votre sens ?
Oui. Je vais dans son sens, parce qu'on partage tout à fait notre vision de l'agglomération. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai soutenu la candidature de Jacques Bascou. Je partage tout à fait sa vision de l'intercommunalité. C'est celui qui l'a le plus approfondi.
Mais vous évoquez aussi les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faudra peut-être que le président tape du poing sur la table ou enfin qu'il brusque un petit peu les choses, d'après ce que vous dites.
Ça, c'est certain. C'est certain qu'il faudra un moment prendre des décisions et peut-être...
Parce que ce pacte de solidarité, ce pacte fiscal de solidarité, autant vous le souhaitez, vous, à la tête de l'agglo, autant les maires individuellement renaclent.
Certains, pas tous. Je crois qu'il va falloir faire surtout beaucoup de pédagogie, comme le disait M. Santos, parce que tout le monde a y gagné. Ça équilibrera un territoire qui a besoin d'être équilibré. Maintenant, on est tout le monde sur le même bateau. Hein.
Oui, bon, alors, voilà qui est... Alors maintenant, ce territoire sur lequel tout le monde est, quelle est votre vision, même si vous la partagez plus ou moins avec Jacques Bascou, il l'avait évoqué. Il y a des pistes qui sont suivies, des directions de développement qui sont très clairement établies, que je sache.
Oui, mais là, tout le monde partage cette vision parce qu'elle est logique. On investit sur Montredon, il est bien placé.
Ça, c'est pour le pôle
médical. La partie économique en activité,
voilà.
Oui.
C'est le mieux placé, il y a l'autoroute, il n'y a rien à dire. Je ne vois pas pourquoi je réclamerais la même zone sur Sainte-Vallière, qui est loin de tout. Enfin, il faut, à un moment, être logique. Même si je défends les intérêts de la commune, on ne veut pas être laissé pour compte. Il y a quand même des logiques à avoir. Il faut montrer un minimum d'intelligence.
— Bien sûr. On ne peut pas demander à madame la mairesse de Sainte-Vallière de revendiquer un département universitaire à Sainte-Vallière, un stade, enfin, etc. Donc il y a une hiérarchie, entre guillemets, mais naturelle, quoi, hein, entre les différents éléments de l'agglo qu'il convient de respecter, de prendre en compte. compte et ne pas s'imaginer qu'on puisse recopier ce qui est Narbonne, hein, à Cuxac, à Évian ou à Sainte-Vallière, évidemment.
Et c'est dans ce sens-là que va la solidarité. On investit un endroit, mais ça doit retomber aussi sur les autres qui regardent passer.
Bien sûr.
Oui, dans le cas de Montredon, donc un grand pôle médical est prévu. Vous dites qu'il y a l'autoroute, mais il n'y a pas une sortie d'autoroute à proximité, proche, je dirais.
Non, mais...
Est-ce que c'est envisageable, ça ?
Oui. Une sortie
en faisant pression sur les ASF, bien évidemment.
Je ne sais pas, mais il y a quand même les voies, les infrastructures routières sont quand même convenables. Plus que vers Sainte-Vallière.
Plus qu'à Sainte-Vallière.
Oui, et puis surtout à terme, je crois, hein, que la jonction avec le Lézignanais, oui, la communauté de communes, doit se faire, en fait, en termes de stratégie économique, et que le potentiel de développement en termes de zone, en fait, et de débouchés ensuite autoroutiers, elle est sur Lézignan, hein, où il y a une grande zone industrielle et un foncier considérable, en fait, qui est utilisable. Je veux dire, bon, l'axe de développement en termes de zone, il est là, quoi.
Oui.
Incontestablement. Oui, sauf que Lézignan ne fait pas partie du Grand Narbonne et souhaite pas forcément en faire partie.
Oui, mais regardez, en fait, je parle cette association du
cœur de Languedoc,
ex-triangle-doc, mais qui est maintenant cœur de Languedoc. Bon, voilà, c'est un début de coopération.
Oui.
Et vous y croyez, ça? Parce que là encore, il y a des égoïsmes communaux, il va y avoir aussi des égoïsmes communautaires. Les hommes étant les hommes, c'est inévitable.
C'est sûr, mais à un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Il faudra savoir où on veut aller et ce qu'on veut devenir. Donc après, il faut faire confiance à l'intelligence des hommes, moi, et à la raison.
Et puis surtout la nécessité économique. Voilà. Il y a des invariants, en fait.
Oui, mais enfin, en France...
Il y a des logiques économiques et sociales qui font que... Bon,
mais la nécessité économique en France, tu l'évoquais tout à l'heure à travers une certaine manifestation, Michel. On ne peut pas dire que le cartésianisme règne à tous les carrefours.
Non, c'est sûr qu'encore l'égoïsme communal est encore très prégnant dans les esprits, comme le faisait remarquer Madame la mairesse, quoi. Que c'est l'obstacle principal, je vois là, moi, psychologique, fait, et culturel.
Oui. C'est ça. Ça évolue. Bon, moi, personnellement, ça m'est facile. C'est mon deuxième mandat. Je suis née maire en même temps que l'intercommunalité. Donc ça coule de source. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué.
Ah, vous voulez dire par là que, étant récemment élu maire, vous êtes mieux dans vos baskets peut-être que d'autres?
Oui, parce que j'ai pas connu autre chose. Donc c'est plus facile pour moi de m'intégrer dans une démarche qui est la seule et unique que j'ai connue.
Bien sûr.
Voilà. Viviane Durand, merci. C'est là-dessus qu'on va conclure. Le prochain invité de Radio Barque sera Frère François, avec lequel nous parlerons de religion. Et puis, parmi les prochains invités, François Lieta, cette fois-ci, c'est tout à fait autre chose. C'est le jeune patron des Républicains des Pyrénées-Orientales. Il s'est fait élire président il y a relativement peu de temps. Et puis un peu plus tard, de mémoire, je cite également Bernard De Vic, président du PNR, auquel nous faisions un petit peu allusion tout à l'heure, qui est également un des prochains invités.
On va peut-être inviter aussi un Biterrois, en fait, hein, puisque la station
jusqu'ici, ça a été tenté, ça a été tenté jusqu'ici sans succès. Mais ça fait partie, bien entendu, de notre stratégie territoriale, puisque à Radio Barque, nous avons aussi une stratégie territoriale. Et j'ai pris personnellement contact, ou j'ai tenté de prendre contact avec Monsieur Lacasse, mais jusqu'ici sans succès. J'espère que ça viendra un jour. Merci à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.